Alors, bonjour David Doyon, et
Bonjour.
merci d'accepter cet entretien pour Lutte ouvrière. Donc, David, tu es éditeur, édition Nada, et Nada a notamment publié cet ouvrage, Michael Gold, Juif sans argent, un ouvrage qui était initialement paru en 1930 et qui a récemment été réédité en traduction par Nada. Et on voudrait discuter un peu de ce livre
Avec plaisir.
qui m'a intéressé, qui est un témoignage très, très vivant sur le quartier du Lower East Side, donc le sud-est de Manhattan à New York au tout début du XXe siècle, à une époque où c'était un quartier bien plus populaire, bien plus ouvrier que
Aujourd'hui,
Manhattan
oui.
ne l'est aujourd'hui. Et on voudrait aussi évoquer la trajectoire, le parcours de Michael Gold, l'auteur, enfin le pseudonyme de l'auteur, et qui a eu un parcours tout à fait particulier aux États-Unis, qui était né en 1893, et donc qui raconte son enfance, ce qu'il a vu pendant sa jeunesse dans ce quartier populaire de New York. Alors peut-être déjà une première question, qui était Michael Gold et qu'est-ce qu'on peut dire aussi de sa famille?
Alors, Michael Gold, donc c'est de son vrai nom Isaac Itzhak Granish. Effectivement, il est né donc en 1893 à New York. Ses parents, c'est des émigrés juifs qui arrivent quelques années auparavant. Son père arrive en 1885 et sa mère, elle arrive l'année suivante. Son père vient de Roumanie, d'une petite ville qui s'appelle Jassy. Il fait des petits boulots. Ce qu'on sait de son père, c'est qu'il va voyager un petit peu dans les Balkans. Il va faire de la contrebande de tabac à Constantinople, enfin, qui vient de Turquie. Et puis ensuite, donc, il émigre aux États-Unis. Et là, il va travailler dans l'industrie textile. Il va avoir un petit atelier de bretelles, comme beaucoup de juifs immigrés à l'époque aux États-Unis. Et puis, sa mère, elle est originaire de Budapest, en Hongrie, enfin, dans l'Empire austro-hongrois à l'époque. Et ils se rencontrent, on suppose, à New York. Voilà. De leur union vont naître plusieurs enfants, dont Michael Gold, qui va donc grandir dans ce quartier populaire, hein, qui va accueillir. Alors, on estime, bon, les historiens comptabilisent à peu près, sur la période 1880-1920, à peu près 2 millions de juifs originaires, alors, qui n'étaient pas encore les pays de l'Est, hein, mais de Russie, dans cette région qui va en gros de la Pologne à la Roumanie, en passant par la Hongrie, qui vont émigrer, bah, en quête d'une vie meilleure, en tout cas d'un espoir de changer de vie, en particulier bah, éviter les pogroms et la répression ultra violente qu'ils subissaient dans l'Empire russe, dans l'Empire tsariste. Et pour échapper bah, à cet antisémitisme virulent hein, qui sévissait à cette époque dans ces régions. Donc le jeune Mike qui va grandir dans ce quartier populaire hein, ben voilà, qui regroupe des centaines de milliers d'immigrés. Et il va avoir une vie un peu comme bah, la vie de tous ces gamins qui grandissent dans ce quartier. C'est-à-dire que bah, il va assez rapidement abandonner l'école, il va occuper des petits travaux à droite à gauche. Mais malgré tout, ses parents vont bah, le pousser d'une certaine façon quand même à se cultiver. Donc il va suivre des cours du soir, des choses comme ça. Et il va quand même voilà, avoir un attrait assez rapide pour la chose littéraire, transmise par son père, qui était un conteur hors pair et qui racontait lors des veillées familiales les légendes un peu et les histoires traditionnelles de cette culture juive ashkénaze. Et puis, bah, à partir des années 1915, il va commencer à collaborer avec des petites revues littéraires, publier des petits textes. Il va même réussir à avoir une équivalence pour participer, enfin, suivre des cours à la prestigieuse université Harvard de Boston. Mais bon, finalement, les courses, ça m'intéresse pas vraiment, et il est plutôt attiré par l'effervescence qui se développe à partir des années 1910 dans un quartier de Manhattan en particulier, qui est un quartier qui est tout près du Lower East Side. C'est à quelques encablures de rue autour de Greenwich Village, où se développe, on va dire, une forme de bohème artistique et littéraire, où se côtoient à la fois étudiants radicaux et travailleurs immigrés, qu'ils soient juifs, mais aussi italiens, irlandais ou allemands. Et dans ce bassin, on va dire, culturel et radical, c'est là que Mike Gold va faire ses premières armes en tant qu'écrivain et qu'auteur. Il va commencer à collaborer à une revue qui s'appelle Masses, qui est une revue socialiste, mais aussi une revue culturelle qui publie à la fois des textes politiques, d'analyse un peu de la situation, mais aussi beaucoup de nouvelles, de textes poétiques. Il y a aussi beaucoup d'illustrateurs qui participent à cette revue-là. Donc, il va publier ses premiers textes littéraires à cette période-là. Et puis, arrive la guerre. La guerre déjà arrive en Europe, hein, mais en 1917, les États-Unis décident de rentrer en guerre. Le jeune Mike, comme beaucoup de ses camarades de l'époque, est opposé à l'entrée en guerre des États-Unis. Hein, il est pacifiste, il est socialiste. Et il s'enfuit pendant 2 ans au Mexique, en attendant que la pression tombe, parce qu'à ce moment-là, va se déclencher une forte répression, on va dire, contre tous les mouvements de gauche, socialiste et pacifiste. À ce moment-là, les positions de Mike Gold, elles sont plutôt. Il a commencé à fréquenter l'Industrial Workers Award, qui est un syndicat révolutionnaire américain, qui est plutôt de tendance, on va dire, fondé par des socialistes au départ, mais qui est finalement un syndicat qui va être assez proche de positions libertaires, on va dire. Et même le jeune Mike, à ce moment-là, est plutôt, on va dire, dans un positionnement plutôt anarchiste, même voire assez individualiste. Et puis quand il revient du Mexique, entre-temps, la situation internationale aussi a changé, il y a eu la révolution russe. Et là, on assiste un peu à une radicalisation un peu de ce mouvement contestataire, dont une partie va évoluer, on va dire, en soutien à la révolution russe. Et il va participer à un nouveau journal qui s'appelle Liberator, qui est un peu la suite hein, de The Masses, et qui va être un journal donc, qui reste dans cette même lignée, en tout cas culturelle, politique, mais avec là carrément un soutien beaucoup plus affirmé, on va dire, à la révolution russe, et puis un engagement beaucoup plus communiste, on va dire, qu'auparavant.
Alors, peut-être qu'on va revenir, si tu veux bien, dans un instant sur son parcours ultérieur. Peut-être pour rester quelques instants sur cette partie de New York là, du début du XXe siècle dont il dresse le tableau dans ce livre passionnant. Qu'est-ce que c'était ce quartier de Manhattan? Qu'est-ce qu'il en raconte sur le plan social? On n'a pas le temps d'entrer dans les différents portraits des différents personnages qui sont
Tout à
tout
fait.
à fait passionnants, mais si tu devais un peu résumer ce qu'on peut comprendre de cette société au début du XXe siècle, qu'est-ce qu'on peut en dire?
On va dire que c'est vraiment une sorte d'instantané un petit peu d'un quartier prolétaire. Alors américain, mais qui pourrait aussi ressembler finalement à une banlieue de Glasgow ou le Belleville de l'époque hein, à Paris. C'est vraiment une sorte de série de portraits en fait des habitants de ce quartier-là. Donc on voit aussi bien lui et ses gamins des rues qui traînent toute la journée, qui font des conneries, qui vont aller tuer des chats, qui vont aller se battre avec les gamins du quartier d'à côté qui sont eux des Italiens ou des Irlandais. On voit la violence de ce quartier avec les macros, les prostituées. Il y a toute une série de portraits justement de la condition des femmes à cette époque-là. Et puis aussi la condition des travailleurs pauvres et en particulier dans ce quartier du Lower East Side donc, qui était composé en grande partie de travailleurs juifs et qui était pour beaucoup travailleurs dans le textile. Donc c'est vraiment montrer un petit peu, c'est à la fois l'histoire de ghetto, c'est lui-même, hein, qui est le ghetto juif de New York, qui peut ressembler finalement à tous les ghettos dans l'histoire, et qui est aussi de façon plus large l'histoire voilà, d'un quartier populaire et ouvrier du début du XXe siècle.
Avec cette particularité que l'essentiel des habitants sont des immigrés, quoi.
Exactement, exactement. Mais finalement, comme beaucoup de quartiers populaires, où vont s'entasser effectivement les immigrés qui viennent d'autres pays, qui fuient la guerre, la misère. Et là, on retrouve exactement un peu cette même typologie, quoi.
Alors, cette industrie textile, là, comment elle fonctionne au juste?
Alors, à ce moment-là, l'industrie textile, en gros, y a un peu deux modèles, c'est-à-dire qu'il y a un peu l'ancien modèle qui sont composés, on va dire, de petits ateliers, où souvent il y a un taulier qui est un petit patron, mais qui est souvent en fait un ancien ouvrier qui a réussi à amasser un tout petit pécule et qui du coup arrive à embaucher quelques ouvriers, mais qui vont souvent être des gens de la même famille, ça peut être des cousins, des oncles, et qui vont venir travailler pour lui. Et puis en parallèle de ça, se développent aussi des industries un peu plus importante, type fabrique, atelier ou usine, qui embauche là plusieurs dizaines, voire parfois des centaines de personnes, dans des conditions souvent déplorables, hein. Y a un type d'atelier, enfin, qui est assez connu, hein, c'est ce qu'on appelle les sweat shops, qui étaient les ateliers à sueur, enfin, si on traduit un peu littéralement, qui étaient, enfin voilà, on travaille entre 14, 15, 16 heures par jour pour des salaires de misère. Y a un événement qui va marquer beaucoup à l'époque. C'est un incendie en 1911 à New York, dans lequel vont mourir 146 ouvrières, je crois. Elles étaient enfermées carrément dans l'usine par le patron. Et quand on va se déclencher l'incendie, elles n'ont même pas les clés pour sortir. Donc elles vont mourir soit asphyxiées, soit brûlées par les flammes, soit se défenestrées. Enfin, c'est un exemple tragique, mais qui donne bien en fait la mesure de la façon dont se déroulaient un peu les conditions de travail dans ces ateliers.
Alors c'est vrai qu'on voit beaucoup à la fois l'exploitation féroce dont ces ouvriers font l'objet, la violence qu'il y a dans cette vie. Mais alors il y a aussi une autre dimension, c'est des relations de solidarité, de grande entraide entre les habitants, non?
Tout à fait. Disons que c'est effectivement quand on est acculé, y a aussi la solidarité qui de fait se met en place, qui est une solidarité à la fois familiale, parce que voilà, par les liens de famille, mais aussi qui se fait à l'échelle d'un même immeuble. On voit souvent justement, il y a plein de petites histoires qui sont racontées dans le roman, où il y a la voisine du dessous, une prostituée qui a eu des problèmes et qui vient voir sa mère, la mère de Maygold, elle est un petit peu, je sais pas comment dire, celle qui va consoler toutes les misères un peu du quartier. Et puis il y a aussi d'une certaine façon une forme de solidarité de classe, hein, qui de fait, de par la situation, se met en place. Donc ça qui est intéressant, c'est ce qu'on a aimé aussi dans son roman, c'est qu'à la fois il dépeint un quotidien qui est quand même extrêmement dur, extrêmement sombre, et en même temps c'est pas tout noir ou tout blanc, c'est-à-dire qu'il y a aussi dans toute cette misère, il y a aussi des moments de joie, des moments de. Voilà, il raconte un peu les réunions familiales qui sont aussi des réunions familiales élargies où il y a aussi bien le clochard de la rue d'en bas qui vient manger aussi avec la famille et les amis. Enfin, il y a tout ce côté-là qui aussi sont des notes d'espoir et pour montrer qu'effectivement, tout n'est pas désespéré, heureusement.
Oui, c'est vrai, c'est pas idéalisé, mais en même temps, il a beaucoup d'empathie pour les personnages de ce
Tout
ghetto.
à fait, tout à fait. C'est à la fois effectivement dans un rapport, je pense vraiment là pour le coup personnel, et puis aussi c'est un roman qu'il faut réintégrer aussi dans une démarche politique qui est la sienne, à la fois combattre, on va dire, certains préjugés, en particulier les préjugés antisémites. Hein, c'est pas neutre aussi que le roman soit publié en 1930 aux États-Unis, au moment où l'antisémitisme en pleine expansion, on va dire, un peu partout dans le monde, en particulier en Allemagne nazie. Et puis aussi une volonté je sais pas comment dire, enfin, Maygold, de défendre une démarche artistique dans laquelle on va mettre en avant les classes populaires, la classe ouvrière, et effectivement la dépeindre sans non plus la travestir en disant que tout est magique et tout est génial et tout est magnifique, mais en même temps montrer ce qui est positif et ce qui est moins aussi.
Alors ensuite, Mike Gold, il est devenu stalinien. Tu peux en dire quelques mots sur la suite de
Tout à
sa
fait.
vie, quoi, en résumé?
Ouais, donc quand il revient du Mexique, il va participer donc à une nouvelle expérience, le journal Liberator, qui poursuit le travail de Macy's, à la fois donc dans cette direction à la fois culturelle, artistique, mais aussi politique. En 1925, il fait un premier voyage en Russie soviétique, et là, il va être un peu émerveillé d'une certaine façon par justement la politique culturelle qui est mise en place à ce moment-là, et en particulier par les expériences d'auteurs et de dramaturges comme Meyerhold ou d'autres. Et il va rapporter aux États-Unis ces pratiques. Il va faire du théâtre, il va écrire des petites pièces en collaboration avec des auteurs renommés comme John Dos Passos ou Upton Sinclair. Et petit à petit, Michael va défendre une vision d'un art prolétarien et qui suit aussi d'une certaine façon l'évolution de ce qui se passe en Union soviétique avec la prise progressive du pouvoir par Staline et ce qu'on va appeler la bolchevisation du parti. Et donc Michael va suivre vraiment cette évolution-là. Et effectivement, au départ du jeune bohème qu'il était, il va devenir une sorte de procureur stalinien, limite Vichinsky, qui va devenir une des grandes figures de cette littérature prolétarienne américaine, pour le meilleur et pour le pire, on va dire. C'est-à-dire pour le meilleur dans le sens où il va être à l'origine d'initiatives culturelles extrêmement intéressantes, et en même temps commencer petit à petit aussi dans les journaux qui collaborent, à se faire accusateur, on va dire, des déviations d'artistes qui, jusqu'à présent, soutenaient aussi bien, on va dire, se situaient à gauche ou voire soutenaient même le Parti communiste, commençaient à dénoncer à droite, à gauche, les déviations, qu'elles soient selon lui bourgeoises, voire même trotskistes par la suite, quoi. Et donc, il va devenir quelqu'un de plus en plus intolérant, on va dire, et suit vraiment effectivement cette ligne politique. Et ça, presque jusqu'à la fin de sa vie, encore en 1956, avec l'insurrection de Budapest et les chars qui sont envoyés par Moscou. Il soutient encore ça. Et même un autre événement qui va le marquer, qui est un peu avant, c'est le pacte germano-soviétique, qui est quand même un événement, on va dire, traumatisant pour l'histoire du mouvement ouvrier. Et lui en particulier en tant que juif, justement. Et finalement, bon, après une petite période où il disparaît un tout petit peu, il revient et il soutient à nouveau la politique de l'Union soviétique, quoi. Donc effectivement, c'est quelqu'un qui va devenir après quelqu'un d'assez sectaire, on va dire.
D'accord. Bon, merci de cette présentation. Alors, on peut peut-être terminer en disant que l'ouvrage, il avait été traduit en français, mais c'est une nouvelle
Tout à
traduction.
fait. Tout à fait. En fait, donc l'ouvrage est paru en
Un peu oublié,
1930.
quoi.
Ouais,
L'ouvrage
il
était
est
un peu oublié.
tout à fait. En fait, donc il paraît en 1930 aux États-Unis. C'est un ouvrage qui va avoir un énorme succès à sa parution. Il est de multiples fois réédité aux États-Unis. Il va être traduit en 10, 11, 12 langues, je ne sais plus exactement, enfin aussi bien en français, en italien, en espagnol, mais aussi en yiddish, en roumain, en tatar, enfin en russe, en beaucoup, beaucoup de langues. Et ensuite, c'est vrai qu'il va tomber un petit peu dans l'oubli, certainement dû, je pense, à la position de Mike Gold, qui effectivement va petit à petit, de par ses positions staliniennes, on va dire, se mettre à dos toute une partie, on va dire, du monde littéraire et du monde politique aussi. Et du coup, c'est vrai que ce roman avait un petit peu disparu des radars. À New York, on le trouve encore un petit peu, quand on y était allé il y a 2 ans, si on va à Ellis Island, par exemple, qui était l'île où arrivaient tous les immigrés, où il y avait les postes d'immigration, il est en vente là. Mais c'est vrai qu'en France, donc il était publié en 1932, dans une traduction de Paul Vaillant-Couturier. Et ensuite, il est complètement sorti des radars. Et voilà, on est tombé dessus et on a trouvé que c'était voilà magnifique, magnifique témoignage. Sauf que effectivement, la traduction nous semblait un petit peu vieillotte, un petit peu ampoulée. D'autant que ben, la volonté de Michael Gold, c'est aussi donc une littérature prolétarienne, une littérature qui est faite par les ouvriers et pour les ouvriers, donc une littérature aussi dans un style assez direct. Pas beaucoup de métaphores, enfin, on va directement un peu au fond des choses. Et voilà, donc on a souhaité refaire une nouvelle traduction qu'on a confiée à un jeune traducteur, Romain Guillou, qui est spécialiste de littérature américaine et qui a essayé bah, de vraiment respecter, on va dire, la volonté de l'auteur et voilà, traduire en tout cas son style qui nous semblait en tout cas avait moins été respecté dans sa première traduction.
Merci beaucoup pour cette présentation, pour
Ben, merci, merci à toi, merci à vous pour l'invitation.